Alors, déjà, ce mot web. Alors, moi, il y a une chose auquel je tiens beaucoup. Le web, ça n'est pas Internet. Hein, on fait toujours une confusion. C'est une des applications qui tourne sur Internet. C'est d'ailleurs pas celle qui charge le plus le réseau. Alors, donc, du coup, on va commencer par parler un petit peu d'Internet. Alors, puisque le web, c'est pas Internet, qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Ben, en fait, Internet, c'est très bête, Internet, c'est un tuyau. C'est un grand tuyau qui est géré par un protocole, on va voir ce que c'est, et dans lequel il y a toute une série de messages qui passent et qui correspondent à différentes applications. Alors, j'ai marqué ici, par exemple, POP et SMTP. Qui est-ce qui sait ce que c'est ? C'est la messagerie. SMTP, c'est le bureau de poste, et POP, c'est le service poste-restant. Ça, FTP, c'est du transfert de fichiers. HTTP, ah ben tiens, c'est le web, on le retrouvera tout à l'heure. Bon, et puis, un certain nombre d'autres.
Excusez-moi, www, c'est World Wide Web, mais je
ne
sais plus ce que ça veut dire.
On le verra. Rassurez-vous. On va le voir. Alors, déjà, j'ai employé le mot protocole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un protocole ? C'est un ensemble de règles, un ensemble de conventions qui vont permettre à deux entités de dialoguer ensemble. Alors, je me suis amusé disant, je ne sais pas, on peut peut-être faire un protocole quand deux personnes téléphonent. Bon, il y a une phase de connexion, il y a une sonnerie, on décroche le poste. Vous regarderez bien, il y a toujours ensuite une phase d'identification. Alors, ici Pierre, bonjour Pierre, ici Sarah, bonjour Sarah. Ça y est, l'identification est faite. Le dialogue peut commencer. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Ensuite, il va y avoir une phase de fin de communication. À demain, bise, bise. On peut raccrocher. Donc, même entre deux humains, nous gérons toujours un protocole pour communiquer. Alors évidemment, dans le cadre informatique, le protocole est un peu plus compliqué. Et encore. Alors, j'ai dit que Internet était géré par le protocole TCP/IP. Il est en deux morceaux. Alors, il y a déjà TCP. Alors, TCP, c'est ce qu'on appelle un système de transmission par paquet. Alors, l'idée, c'est que les messages qu'on veut transmettre, par exemple, on veut transmettre une grosse photo, c'est très gros. On ne va pas tout transmettre d'un coup, on va découper en petits paquets. Dans chaque paquet, ça va être un petit fichier informatique, dans lequel il va y avoir un en-tête. Dans l'en-tête, il y a l'adresse du destinataire, l'adresse de l'expéditeur et le numéro du paquet. Comme ça, tous les paquets vont pouvoir partir. À l'autre bout, on va les remettre dans le bon sens et on va rétablir le message. Donc TCP se charge de ça. Il découpe ce qu'il faut transmettre en paquets. Il contrôle et il réassemble à l'autre bout. Alors, quand on a ces paquets, on peut les envoyer sur le réseau. Alors là, c'est le protocole IP qui s'en charge. Alors, un réseau, c'est toute une série de nœuds, toute une série de routeurs qui sont répartis partout dans le monde. On s'en rend bien compte, bien sûr, mais simplement quand vous appelez disons que vous vous branchez sur le site de la SNCF, vous allez passer à coup sûr par une demi-douzaine de routeurs différents. Vous aurez déjà un premier nœud de connexion dans la ville de Voiron. Vous en aurez un deuxième sur Lyon, et puis ça va partir à l'endroit où se trouve le site de la SNCF. Je ne sais pas où il est. Il est peut-être dans un souterrain en France. Il est peut-être en Irlande. Un endroit où l'énergie n'est pas trop chère et où ils ont pu le mettre à l'abri. Alors, sur un réseau comme ça, les différents paquets partent séparément. C'est-à-dire que, disons, supposons que les paquets partent ici et veulent arriver là-bas. Ils vont partir là, ici, le routeur ici regarde à qui est destiné le paquet, il vise, il l'envoie par ici. Puis le paquet suivant arrive là, peut-être que ce réseau-là est encombré. Qu'à cela ne tienne, on va l'envoyer par ici et puis par là. Et puis il rejoindra, ou il passera par là et il descendra par là. Le réseau Internet est totalement adaptatif, c'est-à-dire qu'à chaque instant, en fonction des liens qui existent entre les différents routeurs, les paquets passent par un côté ou passent par l'autre. Ce qui fait qu'à l'arrivée, donc j'ai dit qu'ils arrivaient par là, ils ne seront pas nécessairement dans l'ordre. Et c'est le protocole TCP qui va se charger de les remettre dans le bon ordre avant de réassembler. Par contre, l'avantage, c'est que ça donne une très très grande sécurité au réseau. Un réseau comme ça est sensiblement indestructible. Parce que même si vous coupez toute une série de brins, on va continuer à trouver des chemins pour acheminer.
Je peux vous poser une question ?
Bien sûr.
C'est pour ça que ça fait le succès de l'armée, auprès de l'armée américaine.
Alors on va y venir tout à l'heure et je vais essayer de tendre le cou à certaines légendes.
Monsieur, je ne comprends pas comment on appelle ça, les relais qui captent les ondes, ça correspond à ça ou bien c'est encore des trucs plus compliqués autour?
On n'est pas. Alors.
Parce que vous parlez de routeurs, mais ça n'a rien à voir avec.
C'est une machine.
Comment on appelle ça, les antennes relais?
Le GSM.
Comment on peut le mettre là?
Alors, attendez, Internet. En général, Internet ne passe pas en réseau hertzien. Internet passe par des fils, au début passé par des fils, et passe par de la fibre optique. Alors, du réseau hertzien, ici, si je démarre d'ici, j'ai un premier. D'ici, là, ma machine ici, elle est dans la situation d'une de ces petites machines-là. C'est-à-dire qu'elle est sur un réseau local, ici, qui est ce qu'on appelle en Wi-Fi. C'est-à-dire que je suis en radio jusqu'à un routeur qui est quelque part dans le bâtiment. D'où je vais repartir en fil sur une liaison ADSL vers une centrale téléphonique, et de là, on repart en fibre optique.
Qu'est-ce que c'est le fibre optique ?
Pardon ?
Qu'est-ce que c'est le fibre optique ?
La fibre optique ?
C'est quoi ?
C'est un fil, mais qui est en verre au lieu d'être en cuivre. Alors vous allez me dire, l'électricité circule mal dans le verre. Alors qu'à cela ne tienne, on envoie des impulsions de lumière, on envoie de la lumière dans la fibre optique. Et on peut envoyer une quantité d'informations fantastiques, comme ça, par des pulses de lumière le long de la fibre optique. Et donc ça a un débit, disons par moment, d'un débit d'information qui est sans commune mesure avec ce qu'on sait passer sur du cuivre.
C'est ce qu'on parle de câble.
Alors, on voit maintenant régulièrement, ils font des trous dans les rues et au lieu de passer des gros câbles, ils passent un câble qui est très raide, parce qu'il ne faut pas qu'on le plie, mais qu'ils enfilent, qui est très mince, qui est de la taille du doigt, et qu'ils enfilent dans les canalisations. Et là-dessus, on fait passer tout le téléphone pour une ville entière, où on fait passer des milliers de communications Internet. Je lisais aujourd'hui qu'il y a à peu près l'équivalent de 2000 fois le tour de la Terre câblé en fibre optique dans nos pays.
C'était les premières
Oui, alors, comment dire, pour passer d'un continent à l'autre, Pendant longtemps, Internet a utilisé les câbles téléphoniques sous-marins, et maintenant même les câbles sous-marins sont remplacés par des fibres optiques sous-marines. Il y a un des problèmes qui se posait, c'est qu'une fibre optique, au début, il fallait mettre des relais très très près les uns des autres. Et puis, on a réussi à augmenter la portée, donc il y a moins de relais, parce que chaque relais, il faut avoir un petit amplificateur, il faut amener du courant. Et bon, maintenant, on peut faire ça au niveau des grands câbles sous-marins. Bon, n'hésitez pas hein, si vous avez encore des questions. Alors, ça, c'est peut-être un peu technique, mais vous allez quand même voir. Là, ça, c'est la machine chez moi. Ça, c'est la machine serveur, c'est-à-dire celle qui va me fournir de l'information, disons chez Google. Et puis ça, c'est deux nœuds du réseau où il y a des routeurs. Donc chez moi, il y a une application client, disons ça va être par exemple mon navigateur, le programme que j'utilise pour me brancher sur le web. Mais les questions que je vais poser vont passer par une couche, par un programme TCP/IP, qui va passer la main à un programme qui est capable de gérer l'Ethernet ou le Wi-Fi ou la DSL. On part par une liaison, on arrive dans le routeur, on remonte les couches, on les redescend, on passe dans le routeur suivant, qui chaque fois, donc celui-ci vérifie qu'il a bien reçu ce qu'il devait recevoir, il se demande où il doit l'envoyer, il l'envoie, hop, 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 et puis ça arrive au bout. Bon, fini pour la théorie d'Internet. Alors, les débuts d'Internet, il faut revenir en 1957. Je venais d'arriver à Madrid pour mes études d'ingénieur. On apprend que les Russes ont lancé un Sputnik. C'est un peu l'affolement aux États-Unis qui se disent qu'ils sont en train de prendre un retard, qu'ils ont pris un retard technique par rapport aux soviétiques. Donc, il faut forcer l'allure sur les projets scientifiques. Pour ça, est créée une agence spéciale, l'ARPA, Advanced Research Project Agency. L'ARPA, il leur faut des sous. On pique en particulier, parmi ces projets de recherche avancée, il y a un certain nombre de projets spécifiquement militaires, et l'ARPA reçoit de l'argent sur les crédits de la défense américaine. Parmi les projets que lance l'ARPA, il y a une idée qui est de dire qu'il faut améliorer la communication entre nos scientifiques. Donc, de façon précise, améliorer la communication entre les universités. Donc, on fait travailler, il y a un département qui est créé à l'ARPA pour établir un projet pour interconnecter les universités. On fait travailler toutes les universités, en particulier les universités californiennes, et on lance le projet ARPANET. ARPANET débouche, donc démarre vers 1960, l'ARPANET démarre, enfin en 1969, grande réussite, on a 4 universités raccordées. Et on peut passer un mot. Il y a un mot qui passe entre l'UCLA, c'est-à-dire Los Angeles, et Stanford Research Institute. C'est-à-dire, ce sont ces deux-ci. Voilà comment a été fait le réseau. Il n'était pas vraiment maillé, il y avait un triangle et une liaison là. Là-bas, c'est l'Utah, dernier connecté. Donc il est tout seul au bout de son fil. Et puis là, il y a le Stanford Research près de San Francisco, le UCLA à Los Angeles, et celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Et le message qui est passé ici, c'est 4 lettres L-O-G-I-N. Et il s'assurait par téléphone que c'était bien reçu. Mais ça démarrait. ARPANET démarre. On l'améliore sans arrêt. C'est vers 1973 qu'on relance toute une nouvelle série d'études sur les protocoles de transmission par paquet. Il y a un Américain, Dean Cerf, qui a laissé son nom sur ce travail. Et en France, il y a Louis Bouzin, français Louis Bouzin, qui travaille très très fort là-dessus, qui est correspondant privilégié des Américains et qui va aider à développer TCP/IP et qui en France développe le réseau cyclable. Nous étions dans le coup jusqu'au moment où France Télécom a dit ça suffit, nous on a d'autres idées, laissez les Américains jouer tout seuls. On a coupé les crédits, le réseau cyclable s'est arrêté. Ça a créé une douleur qui n'est pas encore disparue. Quand vous rencontrez un certain nombre de gens, ou bien ils s'engueulent, ou bien vous sentez qu'ils sont encore profondément malheureux. Bon, en 1978, le protocole TCP/IP est officiel. L'internet, j'ai volontairement séparé les deux mots, l'interconnexion des networks, l'interconnexion des réseaux est réalisée. Et le nom Internet va devenir célèbre vers 1980. À ce moment-là, c'est un réseau qui réunit des universitaires et il y a une déviation, il y a une branche séparée, indépendante, qui se crée, qui relie des organismes militaires. Et c'est en 1989 que l'accès est ouvert au public. Il n'y a qu'un le premier fournisseur d'accès qui permet de se connecter à Internet. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Vous voyez que même s'il y a eu des crédits militaires, en fait, dans toute l'histoire de l'informatique en France, aux États-Unis, ou en Angleterre, tous les débuts ont été militaires. Il n'y a pas de problème. Le premier ordinateur français, développé par François-Henri Raymond à SEA, c'était sur des crédits militaires. Donc, il y avait des crédits militaires, mais c'est un projet d'université, et c'est un projet fait par des gens qui avaient même un esprit très, très université et très libertaire, pas militaire du tout. Donc, les militaires ont été contents de l'utiliser, et content d'avoir en particulier un réseau qui ne cassait pas grâce à son système de maillage. Mais ça n'avait pas été fait pour ça. En fait, pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés très tôt dans un réseau maillé ? Pour une raison bien, bien précise, c'est que les machines passaient leur temps à tomber en panne. Et que si on voulait, c'était pas parce qu'ils avaient peur qu'une bombe atomique coupe les fils, c'était parce que les machines tombaient tellement souvent en panne qu'il fallait bien trouver une façon pour que les messages continuent à circuler. Voilà. Bon, donc, maintenant, enfin, nous arrivons au web. Alors, l'histoire du web, elle démarre, vous voyez, nous en étions... dès le vrai début d'Internet, 1980, 1989, ouverture au public. Ben, c'est vers la même époque que, au CERN, deux chercheurs se lancent dans une nouvelle étude. Le problème, l'Internet marchait bien, donc qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Il y avait essentiellement la messagerie. Et la messagerie est toujours l'application qui débite le plus sur Internet. C'est fantastique le nombre de messages qui circulent. Et puis, il y avait les transferts de fichiers. On s'échangeait des fichiers d'université à université. Mais le gros problème, c'était de savoir où étaient les fichiers. Alors, il y avait des outils de recherche. On pouvait interroger. On recevait une réponse d'une liste dans laquelle il fallait piocher pour faire appeler ensuite le bon fichier. C'était pas pratique. Et le CERN, c'est à Genève, hein, c'est le centre d'études, nucléaire.
Je crois que c'est le centre européen.
Centre européen de recherche nucléaire. Merci bien. Donc, Tim Berners-Lee a une idée. On le regarde un peu de travers, mais le copain Robert Caillot lui s'emballe pour cette idée-là et ils se mettent à travailler à deux. Ils vont proposer un système qui est hypertexte, utilisant un langage HTML pour décrire les documents et un protocole HTTP pour les échanges. Alors on va voir ces trois termes-là. Le logo là, c'est le logo officiel de l'organisme qui gère les protocoles sur le web. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document hypertexte ? C'est une série de documents qui sont attachés les uns aux autres par des petits fils. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un document, quand un mot vous intéresse, vous pouvez, à partir de ce mot, appeler un autre document qui va peut-être vous donner une autre idée. Celui-là, vous allez partir faire un troisième, puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une feuille, vous avez une feuille, vous pouvez passer directement à une autre feuille, puis à une troisième, puis à une quatrième. On ne fait plus de la lecture linéaire, on saute d'un document à l'autre. On navigue. Fameuse navigation. Alors, voilà, c'est là qu'arrive le mot web. Le web, il est ici. Alors là, j'ai tout simplement pris mon dictionnaire, web, prononciation web. C'est un nom. Dans le cas, le premier sens, c'est issu. Et deuxième sens imagé, c'est une toile d'araignée. Spider, c'est l'araignée. Une toile d'araignée. Donc, le web, c'est un tissu. C'est une toile tissée qui relie des documents entre eux. C'est ça le web. Alors, deuxième élément, le langage HTML. Donc, HTML signifie Hypertext Markup Language, c'est-à-dire que c'est un langage qui utilise des balises. Ce n'est pas les balises, c'est ce qui est là entre crochets. Ce n'est pas un langage qui exécute quelque chose, c'est un langage qui permet de décrire une page. Alors voilà, je me suis amusé à créer une petite page. Il y a le titre de la page, il y a un gros titre de paragraphe, petite démonstration, il y a un premier paragraphe avec une image, puis ici on appelle une image, il y a un deuxième paragraphe ici, paragraphe avec lien, on appelle un lien vers une autre page, et puis on referme la page. Alors, on va regarder si ça marche. Hein. Alors, c'est pas celui-là. Problème avec deux écrans, c'est qu'il faut amener la souris sur le bon écran. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur voilà une petite démonstration, paragraphe avec image, voilà une image, et voilà un paragraphe avec un lien. Le lien est cliquable, si je clique dessus, je passe sur autre chose qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Bon, ça c'est parce que dans l'exemple que j'avais donné, il y avait des adresses pour adresse d'une page sur un site. Alors, il faut faire un tout petit peu de vocabulaire, ça peut être utile. Donc, on appelle ça, on voit ça parfois dans les documents, on appelle ça une URL, une Uniform Resource Locator, c'est une adresse sur le web. Alors, vous les connaissez, elle commence par http://, mais sauf que le 2. Il n'est pas dans le bon sens, mais ça fait rien. Par contre, généralement, les gens ne comprennent pas comment c'est fabriqué une adresse comme ça. En fait, c'est tout simple. Vous repérez l'endroit où il y a ici le nom de domaine. Dans notre cas, c'est aconit.org. Vous avez aconit.org, ça peut être wanadu.fr, sncf.fr, n'importe quoi. Vous partez de là, vous partez d'ici. En fait, c'est la première barre de fraction. Juste à gauche de cette première barre, vous avez le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom d'une entreprise, et puis un suffixe qui vous dit si c'est un organisme sans but lucratif, si c'est un organisme comme commercial, si c'est FR français, si c'est EDU, c'est une université américaine, si c'est... Le point com, c'est commercial. Gouvernement. Voilà. Vous remontez jusqu'aux deux barres ici, vous avez le sous-domaine. Alors, le sous-domaine, vous avez une information de plus qui est en général www. Ça vous dit sur quelle partie de la machine, du serveur, vous allez aller. En général, il y a une partie sur la machine du serveur. Le serveur, ça peut être cette machine-ci. Hein. Moi, j'ai un serveur là-dedans. Ça peut être, donc, en général, www. Mais par exemple, Aconit a aussi un autre sous-domaine qui est DB, pour les bases de données. Donc, vous pouvez avoir, vous étonnez pas, vous pouvez avoir un tas de choses ici. C'est juste une partition sur la machine du serveur. À droite ici, entre toutes les barres de fraction, vous avez des dossiers, c'est-à-dire ça, c'est dans toute la complexité de ce qu'il y a sur le disque du serveur, on descend de dossier en dossier, et puis donc de tiroir en tiroir, et dans le dernier tiroir, vous avez le nom d'un fichier et un suffixe. Ça, c'est la page que vous appelez. Voilà. Voilà comment ça se décode. Bon, et puis, maintenant, le dernier stade pour comprendre le web, c'est comment créer le protocole. Comment ça dialogue. Donc là, c'est l'utilisateur, c'est vous, avec votre écran, votre clavier et votre navigateur. C'est ce qui permet d'aller sur le web. Donc ça va être Firefox, ça va être Chrome, ça va être Safari, ça peut encore être Internet Explorer. Les entreprises qui font du site web perdent chaque année des millions à cause d'Internet Explorer, parce qu'il n'est pas programmé comme les autres. Donc il faut faire des cas particuliers pour eux. À l'autre bout, dans le serveur, vous avez un programme qui traite le HTTP. Il y en a un qui est très connu, c'est Apache. Donc, je peux me permettre de mettre Apache tout simplement parce que c'est vraiment un des plus connus. Et au miracle, Apache, c'est pas gros du tout. La première fois qu'on m'a dit est-ce qu'on pourrait nous faire notre propre serveur, développer nos programmes, je me suis renseigné et puis j'ai appris que dans tous nos Mac, on a un serveur Apache. Là, j'ai un serveur Apache et dans cette machine, je gère 4 sites internet. Donc je les développe ici et ensuite je les rends publics. Mais j'ai un serveur Apache ici. Alors, le serveur Apache, il est raccordé à un disque sur lequel on trouve toutes les pages de texte, et puis les photos, et puis les feuilles de style. On va voir. Alors, comment ça se passe ? Vous voulez appeler les réservations de la SNCF. Donc, vous avez l'adresse, vous la mettez dans votre navigateur, et hop, l'adresse URL part vers Apache. Apache, en retour, vous envoie le fichier avec le code HTML. C'est quasiment instantané. Votre navigateur commence à le lire, Ah, il dit zut, j'ai oublié quelque chose. Il renvoie un message, envoyez-moi aussi cette photo. Il envoie l'adresse de la photo. Apache va prendre la photo, lui renvoie la photo.
Il fait ça tout seul ou il y a un homme qui
fait ça? Non, c'est le navigateur, c'est votre navigateur qui fait ça. Une fraction de seconde d'après, une ligne en dessous, il s'aperçoit qu'il y avait une autre photo. Donc il réclame la photo suivante. Et puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, pour une page affichée, vous avez un premier accès pour avoir le code HTML, et puis derrière, vous avez 10, 15, 20, 25 accès pour avoir le logo en haut de la page, l'image, le petit signe qui est utilisé comme pointeur quelque part, une signature, tout ça, c'est transmis. Ce sont des échanges entre votre machine et le serveur, qui passe par, j'ai pas dessiné les intermédiaires là, hein, mais bien sûr ça passe par 4 ou 5 relais, et vraisemblablement le serveur est aux États. Si c'est la SNCF, il ne doit pas être aux États-Unis, mais si c'est Google, ça part aux États-Unis. Hein. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, le navigateur réclame une feuille de style. Alors, la feuille de style, ça n'existait pas au tout début, ça a été une des améliorations, une des premières améliorations du web. C'est pour améliorer la présentation. C'est un fichier annexe qui ressemble à ça. C'est pas gay du tout. Hein. Et en plus, parce qu'au départ, dans le langage HTML, ce qu'on pouvait préciser pour une page, on précisait les éléments titres et les éléments paragraphes. Donc on avait les titres de niveau H1, H2, H3, H4, de plus en plus petits. Et puis on pouvait avoir des gros paragraphes, des petits paragraphes. Ça s'arrêtait là. Alors qu'avec les feuilles de style, vous pouvez dire en quelle couleur vous voulez, ici pour un titre. Un titre, il va être sur une couleur de fond, il fait 30 pixels de haut, il a une marge au-dessus de lui de 0, mais il est décalé de 5 pixels. Les caractères sont 120% plus gros que les autres, ils sont en caractères gras et ils sont blancs. Et puis, en plus de ces éléments titres et de ces éléments paragraphes, vous pouvez également créer des blocs et placer les blocs sur la page. Donc on commence là à faire vraiment de la mise en page. C'est délicat à utiliser, mais c'est très très puissant. Alors on va faire une petite démo. Hein. Voilà. Alors, ben on est dessus. Alors si ma souris veut bien y aller. Voilà. Voilà. Là, vous avez une page de site internet. Alors, essayez de regarder. Elle a un nom, CSSZ Garden. Je suis désolé, elle est en anglais, mais je sais pas. Il y a un paragraphe The Root of Enlightenment, un paragraphe So What Is This About, un paragraphe Participation, et puis il y a des liens vers d'autres pages. On va appeler une autre page au hasard. Voilà. CSS and Garden, Beauty of CSS Design, Road of Enlightenment, So What Is About, Participation, Benefits, Requirements. C'est exactement le même texte, c'est le même fichier HTML, mais avec une feuille de style différente. Voilà, on recommence. C'est toujours la même chose, mais la feuille de style est changée. toujours le même jeu. On garde exactement la même page, la même description de fichier au HTML, mais on change les styles. Voilà.
C'est-à-dire que le texte, à chaque fois, il le prend au même endroit. Le texte,
c'est exactement là. Si je vais chercher. Ça a été fait par. Il y a eu un appel sur le net disant qui veut participer, c'est un concours. Hein. Et alors, les gens recevaient un fichier. Est-ce que je l'ai ? Je vais mettre un code, voilà. Je travaille sur double écran et il me l'a mis sur l'autre écran. Voilà, donc voilà le fichier qui contient le code source. Donc tous les participants recevaient ce fichier de code source et on leur disait vous faites la feuille de style que vous voulez, mais il y a interdiction de modifier le code source de
l'HTML.
Mais
ces deux documents séparés.
Oui.
Mais ils sont liés de façon
plus ou moins. Elles sont liées parce que dans le début, c'est mal. Hein.
Ça c'est bon.
Attendez, c'est pas là.
C'est le même contenant, c'est la forme qui change.
C'est la forme. C'est-à-dire que là, vraiment, on a une parfaite séparation entre le fond et la forme. Alors, donc pour répondre à Maria, il y a ici, il doit y avoir. Alors, ça ne se voit pas bien, mais c'est ici, dans une de ces lignes-là, il devrait y avoir appel à la c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une astuce. Mais normalement, c'est ici, dans l'entête de la page HTML, il y a un lien pour appeler la feuille de style.
Ça date de quand, la feuille de style ?
Je ne sais pas exactement, mais c'était... Alors moi, j'ai commencé... Donc on a dit 89 la sortie du web. Moi j'ai commencé à faire mon premier site vers 95-96 et les feuilles de style, je ne savais pas m'en servir mais elles étaient arrivées. J'ai dû commencer par là.
Donc ça veut dire
que
t'as abandonné la feuille de style et tous les pages avaient la même tête.
Non, mais il y avait beaucoup moins de facilité. Tout ce qu'on fait, les pages ressemblaient beaucoup plus parce qu'on ne pouvait pas faire des blocs, surtout. C'est-à-dire qu'on avait toujours, on avait, je dirais, une présentation très industrielle. Un gros titre, des plus petits titres et du texte, et puis des images. Alors la seule chose, c'est qu'on jouait un peu en mettant les images une fois à droite, une fois à gauche, mais il n'y avait pas beaucoup de possibilités.
L'intérêt final, c'est quoi ?
Des fois, c'est
pour l'argent, sur le commercial. Oui, c'est ça. C'est ce qui compte, que ce ne soit plus
rentable. Et l'attractivité pour le commerce.
C'est rare de trouver des choses.
Bon, on reprend. Alors, comment a évolué le web ? Alors, c'est essentiellement sur l'interactivité, c'est-à-dire la relation entre ce qui se passe dans la machine serveur et ce qui se passe dans la machine du client, de l'utilisateur. C'est essentiellement dans ce domaine-là que les choses ont beaucoup changé. Jusqu'ici, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, les pages sont statiques. C'est-à-dire qu'on a décrit le contenu en HTML, on a une feuille de style et ça s'affiche, un point, c'est tout. Là, à partir de là, il y a eu une évolution. Alors, je vais distinguer quatre points. Le premier, qui est du tout début, c'est d'ajouter des formulaires dans la page. Donc le formulaire, c'est une zone où on peut soi-même écrire du texte, puis il y a un bouton qui va envoyer ça au serveur. À charge pour le serveur de savoir comment il va se débrouiller pour le traiter.
Donc c'est lui-même.
C'est
pas une image. Non, c'est pas une image.
Non, c'est des infos.
C'est, il faut qu'il y ait le Apache ne sait pas faire. Donc quand Apache doit revenir quand on appuie sur le bouton submit, que le contenu de la d'une, deux, trois fenêtres est parti et envoyé vers le serveur, Apache demande. Il faut qu'on lui dise quel est le programme qu'il va être capable de traiter. Donc dans le message qui part, on dit à Apache quel est le programme qu'il traite, mais ça se traite côté serveur. Donc quel genre de choses, par exemple, ou bien simple, là j'ai dit nom, prénom, adresse, mais par exemple sur le site de la SNCF, vous allez lui dire quelle est la gare de départ et la gare d'arrivée. Ensuite, quand vous appuyez sur le bouton, Apache va appeler le programme de réservation en lui disant gare de départ et gare d'arrivée. Et c'est un programme qui va se charger de créer la page de réponse. Le deuxième niveau, le travail va se passer sur le serveur. Il y a un deuxième niveau qui est que certaines actions peuvent être traitées sur la machine du client. Donc sur votre machine. À ce moment-là, c'est chez vous. Donc c'est le navigateur qui va appeler ce qu'on appelle des fonctions JavaScript. Et ces fonctions JavaScript vont permettre, par exemple, d'agrandir une image, de vérifier qu'on a bien rempli tous les champs d'un formulaire avant de l'envoyer. Il y a un certain nombre d'actions qui peuvent se traiter comme ça sur votre machine client. Alors, on va regarder. Alors, pour le moment, vous ne regardez pas Ajax là-haut. On regarde simplement, dans ce dessin-ci, il y a deux choses qui sont ajoutées. Ici, au niveau d'Apache, Apache a une liaison avec des programmes extérieurs, ce qu'on appelle des API. Bon, c'est très souvent des programmes écrits dans le langage PHP. Donc, quand il y a par exemple, le résultat d'un formulaire qui est envoyé par le navigateur, Apache le passe au PHP, qui va traiter les résultats qu'on lui donne, qui va fabriquer une page qui va être envoyée. Et puis, de ce côté-ci, le navigateur, lui, il est relié à un interprète JavaScript pour faire des actions locales. Et alors, la troisième amélioration dans les systèmes de communication, c'est ce qu'on appelle le système Ajax. C'est asynchronous JavaScript and XML. C'est la possibilité, vous avez affiché une page, hein, donc il y a eu l'appel de page, l'envoi du fichier HTML, puis il y a eu la feuille de style. Ça ne bouge plus, c'est stable. Et sans interrompre, en gardant la même page, le navigateur demande des petites infos supplémentaires et reçoit des réponses. Il y a un flux qui va s'établir, qui va jusqu'ici. Et c'est instantané, on ne retransmet pas toute la page. Ah, alors on va essayer de vous montrer ça. Je me suis bien demandé quelle démo, puis j'en ai trouvé une.
Comment ça se présente physiquement? C'est un bâtiment, c'est quoi? Il y a des bonhommes derrière.
Alors,
parce que je vois bien l'utilisateur de l'autre sur l'écran, mais l'autre de côté.
Alors, un serveur, ça peut être un peu tout. Hein. Cette machine-ci peut faire serveur par rapport à une autre machine qui serait dans la pièce.
Oui, non, mais vous traitez, hein. Bon. Pas
alors, quand vous appelez Google, c'est un hangar de 80 mètres de long qui est rempli jusqu'à la gueule d'armoires. Et toutes ces armoires contiennent des disques et contiennent des processeurs. Et tout ça, c'est interconnecté par des câbles. Oui, et ça fout.
Il y a combien d'hommes qui s'occupent de ces choses? D'hommes? Ça marche pas tout seul.
Il y en a 4 ou 5?
Une fois que c'est branché.
Une fois que c'est branché, c'est. C'est-à-dire, bon, je veux pas dire qu'il y a 4 ou 5 personnes chez Google. Google, actuellement, embauche tous les meilleurs mathématiciens qui sortent des universités.
Oui, ça, c'est les bureaux d'études.
Ça, c'est les bureaux d'études. Mais au niveau de l'exploitation, c'est des piles d'armoires d'informatique.
Et pour que tout fonctionne sans tel problème, ils ont leur propre programme interne pour contrôler tout ça?
Oui. Ben, c'est-à-dire que il y a des automates qui se rendent compte immédiatement qu'un disque ne fonctionne plus. Tous les disques sont doublés, triplés, quadruplés. Donc quand un disque ne fonctionne plus, les opérateurs sont avertis, ils vont le débrancher, ils en branchent un autre, et il n'y a pas d'interruption. Et les processeurs, c'est pareil. J'ai circulé dans un serveur à Lyon. Donc il était un peu moins gros, il faisait d'ici jusqu'au deuxième pilier à peu près. Et alors, c'était dans une pièce obscure, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre des lampes, il n'y a rien à y faire, enfin, en service normal. Quand vous rentrez, vous avez l'impression de rentrer dans un énorme ventilateur, il y a un frombrissement de ventilateurs, ils tournent tous en permanence, et puis il y a une armoire grillagée. Ça c'est pour des questions de protection contre les interférences. On ouvre la porte et on rentre dedans, et on rentre entre deux rangées d'armoires, et tout du long il y a des microprocesseurs empilés comme ça. Alors ils ont un bouton marche, un voyant vert s'il tourne correctement, un voyant rouge s'il ne marche pas correctement, et une prise câble Ethernet, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et il y en a comme ça des centaines à la queue leu-leu.
C'est qu'une machine, en fait. Bah, oui,
c'est
qu'une machine, d'accord, mais on branche la machine. Ouais.
C'est, et alors, bon, y a un hall donc, qui contient les machines, puis un deuxième hall qui contient les systèmes de refroidissement. Parce que tout ça, ça dégage de la chaleur.
Qu'est-ce que ça prend? De la chaleur, la fumée, qu'est-ce qui peut détériorer?
Tout, c'est relativement. Google, IBM, Apple, leur centre de comme ça ne sont pas blindés. Hein. Il y aurait la foudre qui tomberait dessus, ça ferait des grands dégâts. Les militaires, eux, mettent ça dans des souterrains. Là, toutes les alimentations électriques sont doublées, tout est doublé de façon à ce que ça puisse fonctionner en permanence.
Parce que vu que le monde entier s'appuie là-dessus maintenant, s'il y avait un gros dégât, ça aurait une désorganisation.
Alors, ça repartirait, il faudrait détruire plusieurs centres à la fois, hein, parce que toutes les données sont réparties en plusieurs endroits.
C'est ce qu'on expliquait
pour la tuerie. Oui. Donc le réseau est maillé et les centres de données sont dupliqués en plusieurs endroits. Alors, on a vu trois solutions d'amélioration, et la quatrième qui va nous permettre une démonstration, c'est HTML5 et CSS3. Alors, on a vu de l'interactivité, mais on n'a pas vu d'image animée. jusqu'à la version 4 d'HTML, HTML traitait des images statiques. Et quand on voulait que quelque chose bouge sur l'écran, on utilisait le programme Flash, c'est une société qui a développé le langage Flash. Alors le problème de Flash, c'est que c'est pas standard du tout. C'est une société qui a créé ça. Et ça n'est pas sécurisé parce que il n'y a pas d'effort conjoint des gens qui font le web et puis des gens qui font Flash pour s'assurer qu'il n'y a pas des risques d'intrusion. Flash est coûteux. Alors, il n'est pas coûteux pour l'utilisateur, mais il est coûteux pour le programmeur, parce que c'est des programmes qu'il faut payer. Donc, il y a eu des levées de boucliers il y a quelque temps contre Flash, et actuellement, le problème est résolu par la nouvelle version d'HTML, la version 5, et CSS version 3. Alors, avec HTML 5 et CSS 3, il y a toutes les possibilités de faire des animations, d'écrire des animations en HTML et de décrire des images très complexes en CSS. Les possibilités sont fantastiques. Ce qui ralentit un petit peu actuellement, c'est que pour que ça marche, il faut que les utilisateurs aient des navigateurs à jour qui soient capables de comprendre ça. Parce que le décodage du HTML et du CSS, on a vu tout à l'heure, ça se passe dans votre navigateur, sur votre machine. Donc si vous avez une machine ancienne, il ne comprendra rien. Je vais vous donner, oui, alors cette adresse-là, si je vous la donne, vous aurez un peu de mal à la retrouver, mais vous pouvez chercher, avec Google, vous cherchez exemple HTML 5. Et vous trouverez, ce que vous propose Google, vous trouverez 10 exemples incroyables. On va en regarder quelques-uns. Alors, bon, celui-là est tout simple. Vous voyez que là, il y a de l'animation. On peut même la compliquer un petit peu. Alors, on va revenir en arrière. Qu'est-ce que ça ? Ah, celui-là est joli. Alors, en fait, chacun des caractères qui tombe, là, il est défini, c'est un texte de caractère, mais il est prévu que, pour le caractère, il est prévu un mouvement. Et alors, c'est encore plus fort que ça, c'est que vous pouvez interagir.
Et ça, c'est uniquement... HTML 5 avec le CSS 3.
Alors, il est possible qu'il y ait quelques lignes de JavaScript, mais il est bien entendu dans ce qui est expliqué au début que c'est pas un programme JavaScript. Hein.
C'est ludique, c'est poétique.
Dans ces démos-là, ces démos sont uniquement faites pour être ludiques et poétiques, voilà. Mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses qu'on peut faire avec. Comme tout simplement, d'ailleurs tout simplement, c'est pouvoir facilement démarrer sur une page des vidéos et des bandes sonores sans être obligé de faire appel à des programmes extérieurs. Alors ce n'est pas une photo d'un iPhone, c'est un dessin. Et vous voyez, vous pouvez même la... celui-là met un petit moment à se démarrer. Donc là, en fait, c'est des structures. Chaque structure est décrite sous forme d'un bloc de CSS. Et puis ensuite, en HTML, on déclenche un mouvement. Et la dernière que j'ai est purement... C'est simplement, déplaçant ma souris, je déplace les nuages.
C'est très fou.
Voilà, je vais arrêter avant d'avoir fait trop pour moi. Alors, je reprends, j'arrive au bout des démonstrations. Voilà. Alors, et maintenant, c'est là qu'on peut parler peut-être un petit peu du futur, de croissance d'Internet, 43 ans d'expérience, accès public depuis 18 ans. Il y a des millions de sites, des milliards de pages, c'est pas une plaisanterie. Hein, on considère qu'à peu près un tiers est répertorié, c'est-à-dire qu'à peu près un tiers est accessible par Google, qu'il y en a un tiers qui ne sont pas pris en compte, parce qu'il n'y a aucun lien vers autre chose. Si vous faites votre site sur votre domaine sans en parler à personne, il y sera, mais s'il n'y a pas de lien avec autre chose, Google ne le trouvera pas. Et il y a un tiers qui est masqué. C'est tout simplement tous les réseaux d'entreprise, tous les intranets. Alors il y a un problème d'adressage, c'est qu'il n'y a plus d'adresse disponible. Pour chaque site internet doit avoir une adresse. Et avec les 32 bits, ça ne suffit pas. Bon, pour des raisons un petit peu compliquées, parce qu'il y a des classes, des sous-classes, etc. Donc, on est en train de passer au système IP, Internet Protocol, version 6, où les adresses vont être codées sur 128 bits, ce qui fait, si je ne me trompe, 16 milliards de milliards d'adresses. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir doter chaque objet dans la maison pour avoir une adresse. C'est-à-dire que le frigidaire pourra avoir une adresse, la machine à laver pourra avoir une adresse, l'ordinateur aura une adresse, et ils peuvent communiquer entre eux. C'est-à-dire que de votre bureau, vous savez que la machine à laver a fini de tourner, et le frigidaire vous signale qu'il n'y a plus tel et tel produit dans le frigidaire. On y est. Hein. Il y avait une belle démonstration de domotique là. Bon, c'est la domotique moderne. Vous mettez tout ça en Wi-Fi et chacun des blocs, chacun des capteurs de température ou autre a une adresse et chacune des serrures a une adresse. Et puis tout ça est centralisé sur l'ordinateur de la maison. Et puis comme l'ordinateur de la maison, il est sur le réseau Internet, avec quelques clés de protection, vous pouvez l'appeler depuis votre maison de campagne pour vous assurer que tout marche bien dans la maison.
Ça en fait de la matière première.
Ça fait du...
De la matière première, des guerres en perspective. Et...
Alors... Les enjeux politiques. Oui, bon, il y a de l'Internet commercial. Le e-commerce, le commerce électronique, a démarré en France, je parle mondialement, hein, Donc mondialement, le commerce électronique a démarré en France avec les Minitel, qui ont été pendant très longtemps le plus grand réseau de commerce électronique mondial. Bon, actuellement, donc, c'est repris par Internet. Il y a forcément, dès qu'on est sur Internet, on n'est plus limité à un pays, on travaille au niveau mondial. Donc se posent des quantités de problèmes de règles. Il faut harmoniser les règles de commerce au niveau international. Et pour les financiers, il faut harmoniser les taxes. C'est aussi un problème, ça. Il y a un problème de cadre juridique. Les législations par rapport à Internet ne sont pas homogènes entre les différents pays. Il y a des choses qu'on a le droit de faire sur Internet dans un pays qu'on n'a pas le droit de faire dans un autre. Maintenant, il suffit que le serveur ne soit plus sur votre territoire national, mais soit installé dans le territoire à côté, pour que vous puissiez aller piquer à l'extérieur les informations que vous voulez, en contournant les règlements nationaux. Globalisation et développement, l'information est mise à la disposition de tous. Mais est-ce que tous ont les moyens d'y accéder? Bon, l'information est abondante et gratuite, oui. Bon, accès rapide aux connaissances, tout ça, ça... C'est vrai que ça change. Quand j'ai écrit quelques textes ces derniers temps, chaque fois que j'avais besoin d'une information, je fouillais un petit peu sur Internet, je retrouvais les dates dont j'avais besoin, les informations dont j'avais besoin. Je n'avais jamais ça quand j'étais en entreprise. J'allais
à la bibliothèque. Pour les gens comme ça, c'est hyper intéressant.
Oui.
Pour les grosses bases, pour faire marcher des trucs, c'est ridicule. C'est une question de bon sens.
Tiens, c'est curieux, j'ai deux transparents qui ne sont pas dans l'ordre. Bon, ça c'est les enjeux politiques. Hein. Bon, ça, l'accès universel, profondeur du fossé numérique, on en a déjà parlé, c'est est-ce que tout le monde y a accès? Alors vous savez qu'il y a des propositions qui sont faites pour faire des ordinateurs qui pratiquement ne feraient que la messagerie et Internet pour $100 pour l'Afrique. Hein, ils n'ont pas tenu les $100, mais enfin, il y a des choses qui se font de ce côté-là. Bon, enjeu culturel, diffusion étendue d'informations culturelles. Ici, on peut, un musée peut informer sur ses collections, peut présenter des quantités de choses. Donc là, on offre des possibilités culturelles élargies. Cyberadministration, ça c'est mon collègue Maurice qui a ajouté ça. Administration plus efficace et plus proche du citoyen. Ce qui se fait quand même en France actuellement sur... Les sites gouv.fr sont pas mal. Hein. Le fait maintenant de pouvoir avoir tous les formulaires à distance, c'est quand même... On trouve vraiment beaucoup de choses sur les sites du gouvernement. Hein.
Les télédéclarations.
Et la télédéclaration, c'est pas mal. Alors, les dangers d'Internet... Hein. Vous les connaissez, hein, enfin on peut les rappeler. Vous avez tout ce qui est copie de musique, copie de vidéo de façon illégale. Alors on le fait ou on le fait pas, mais enfin en tout cas c'est illégal. Il y a un problème qui se pose dans les immeubles. Vous installez votre Wi-Fi. Et puis, si vous oubliez de lui mettre un mot de passe, votre voisin se branche dessus. Bon, alors, ça peut être un service que vous lui rendez. Maintenant, si votre voisin utilise votre Wi-Fi pour aller chercher des images pédopornographiques ailleurs, c'est vous qui serez condamné. Donc, il faut quand même y penser. Il faut bien mettre les mots de passe au bon endroit.
Avec les
quelle sécurité suffit pas?
Pardon?
La clé de sécurité suffit?
Si, ça, mais il faut qu'elle y soit. Parce que, bon, alors les box, suivant les box, elles y sont par défaut ou pas?
Le wifi qu'on a ici, il n'y a pas.
Ah ouais. Et ça, c'est des free wifi, il y a plein de réseaux qui sont libres.
Oui, mais le wifi qu'on a ici, c'est un côté
wifi de l'Amérique.
Bon. Il y a toujours le risque, à partir du moment où on est branché sur un réseau, que quelqu'un vienne rentrer dans votre machine. Alors bon, vous, petit utilisateur, il n'y aura pas des gros efforts faits pour rentrer dans votre machine, mais j'ai été bluffé un jour d'une conférence, alors c'était fait à l'ILL, l'Institut Lolangevin, et un responsable sécurité nous avait montré une liste des tentatives d'intrusion sur le réseau de l'ILL, mais c'est une toutes les 5 minutes, hein, c'est continu. Il y a des systèmes d'attaque automatique qui essaient de trouver des failles pour rentrer. À partir du moment une machine est en danger, à partir du moment où elle a où elle porte un serveur Internet. Et le serveur d'Aconit sur un prestataire public a été attaqué à plusieurs reprises. Et une fois, quelqu'un avait installé sur la machine un scanner. Donc dans mes logiciels, avait ajouté un scanner qui allait chercher sur le net quelles étaient les autres machines qui étaient vulnérables. Alors Maurice a marqué ça sous forme d'inconvénient. Confidentialité toute relative du courrier. Il n'y a pas le... Il est relativement... Il faut pas être trop paranoïaque, mais enfin, un message que vous envoyez par mail peut être intercepté, peut être lu par d'autres personnes. Bon, vous avez le spam.
En termes plus jolis, on parle de ciblage publicitaire non souhaité.
Le spam sur la messagerie, aujourd'hui, il n'y a aucune façon de s'en protéger. Ou alors il faut des systèmes compliqués où les gens pratiquement mettent un mot de passe pour vous envoyer un message. S'il y a quand même une protection qu'on peut faire, c'est essayer de ne pas se faire piquer son adresse mail. En particulier, il faut crier des entreprises ou des associations envoient un message dans lequel il y a des listes de 50 destinataires. C'est une catastrophe. Parce que dans les 50 destinataires, il y en a certainement un dont la machine est pourrie et qui ira piquer votre adresse pour l'envoyer ailleurs. Quand on fait du mailing, qu'on envoie à beaucoup de gens, on met les adresses en adresse cachée. Bon, et puis la transmission de virus. Bon, toujours les risques. Alors, il y a toute une nouvelle catégorie de... Si commençons par la fin. Usurpation d'identité dans le mail. Alors, il faut savoir que dans les messageries mail actuelles, il n'y a aucune sécurité sur l'adresse de l'expéditeur. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement envoyer un message en prenant l'adresse de quelqu'un d'autre comme expéditeur. Donc, quand vous voyez arriver un message venant de mon papa, ça ne prouve absolument pas que c'est votre papa qui nous a écrit. Donc, attention. Alors, le problème connu, les réseaux sociaux, les jeunes qui mettent les images de quelques folles soirées, qui racontent des blagues sur tout et n'importe quoi sur leur site Facebook, il faut les prévenir que les employeurs ont toujours la curiosité maintenant de regarder ce qui est écrit sur Facebook, sur votre compte. Donc, peut-être ne pas mettre n'importe quoi. Et puis, alors, il y a les problèmes extrêmement graves de harcèlement, de dénigrement, sur le web, de gens qui se cachent sous une apparence, sous un pseudo gentil, et qui peuvent se révéler être des prédateurs dangereux. Puis, il y a un problème aussi, je ne sais pas si vous voulez, moi, je l'ai vécu d'assez près chez des amis, c'est l'addiction au jeu. Il y a des super jeux sur Internet, et bon, il y a des gens qui n'arrivent plus à décrocher, qui passent des nuits entières à jouer au détriment de leurs études ou de leur boulot. Ah ben tiens, il y a une chose que je voulais vous montrer que je ne vous ai pas montré. C'est au moment où on a parlé. Voilà. Au moment où on a parlé de. Je vous ai parlé de Ajax, c'est-à-dire la possibilité, sans retransmettre des nouvelles pages, d'envoyer des informations entre votre machine et le serveur. Je voudrais vous montrer ce qui se passe ici. Là, je suis sur Google Maps. Et regardez ce qui se passe. Je vais commencer à taper une adresse. Voilà. Il me propose, au fur et à mesure que je tape, il me propose des adresses. Et alors, en fait, ce sont des adresses qui ont déjà été souvent utilisées, hein. Mais c'est pas dans ma machine qu'elles sont rangées, toutes ces adresses-là. C'est chez Google. C'est-à-dire, chaque fois que je tape un caractère, hop, ça part chez Google. Google regarde quels sont les derniers cas où ça a été utilisé et me fait des propositions. Dampierre, non, c'est pas Dampierre. U, Durette au 30, non, c'est pas ça. F, ah, ben voilà, ça y est. Dufferin Street, Ontario. Il a retrouvé une adresse qui lui a déjà été demandée. Et ça se fait à chacun. J'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Pour chacun des 7 caractères, il y a eu un message chez Google et un retour de proposition. Donc à chaque fois, une interrogation.
Ça, c'est raccourci.
Ça permet d'arriver plus vite à la réponse qu'on cherche. Là, ça va m'éviter d'arriver sur l'adresse de ma fille sans avoir à tout taper. Et puis, c'est joli, c'est dynamique. Voilà. Là, pareil, la page n'a pas été retransmise, mais le contenu a été mis à jour. Pardon. Le web et éthique. Liberté d'expression. Je vous disais, Internet est né dans un milieu universitaire et très libertaire. Et actuellement, il y a toujours une lutte entre les promoteurs et détracteurs d'une totale liberté sur le net. Les Américains, en particulier, défendent l'idée que c'est de la libre expression, on peut dire ce qu'on veut. les Chinois disent qu'on n'a rien le droit de dire en dehors de ce qui est la bonne parole gouvernementale et interdisent toute défiance. C'est une lutte constante entre ces deux tendances. Qualité de l'information. Les informations sont-elles fiables? Ça veut dire, une information fiable, ça veut dire deux choses. Elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Si je prends le cas de
Wikipédia,
voilà. Pendant longtemps, on dit « Ah oui, Wikipédia, c'est pas bon, il y a des erreurs. » Bon, il y a eu des statistiques précises qui ont été faites, et Wikipédia est bon. Il y a très peu d'erreurs. Il n'y a pas plus d'erreurs que dans les grosses encyclopédies commerciales. Par contre, il y a un deuxième problème qui se pose. Même si l'information est vraie, est-ce qu'elle est biaisée? Elle peut être biaisée volontairement, c'est-à-dire que des articles peuvent être écrits pour vous donner une certaine idée, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine vision, disons, politique, qui va vous raconter l'histoire d'un événement avec une certaine vue politique. Alors, il y a toujours ce risque-là.
Ou commercial.
Et puis, alors, ça peut être volontaire. Alors, c'est déjà... ça peut même être totalement involontaire. Alors là, je pense par exemple à Google, les livres, toutes les ou même simplement Amazon. Quand vous cherchez des titres sur Amazon, vous allez trouver en priorité des enfin, les informations sur la culture ne sont pas neutres. Si ce sont la majorité d'Américains qui mettent des informations sur la culture, vous allez trouver un biais vers une culture américaine. Vous aurez plus de livres, plus de musique, plus de tout ce que vous voulez qui correspondent à la culture américaine que ce que vous pouvez souhaiter si vous êtes français ou si vous êtes néerlandais. Donc là, c'est un problème important, le problème de ce biais. Et au niveau de Wikipédia, il travaille sur la question, hein, se demandant comment faire. Donc il crée des comités d'éthique pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans.
Pour les moteurs de recherche, il y a le positionnement aussi commercial qui
Tout à fait.
Est très lucratif.
Oui. Vous savez que les clés pour avoir un bon positionnement sur... tout le monde se demande comment on fait pour avoir un bon positionnement sur un moteur de recherche. Alors, dans le temps, pour les vieux moteurs de recherche, on le savait à peu près. Sur Google, on ne sait absolument pas. C'est secret. Les vieilles techniques classiques qu'il y avait dans le temps, de mettre des mots-clés, de mettre toutes les idées forces dans les 2000 premiers mots du site, tout ça, ça ne marche pas. Hein, ils ont d'autres façons d'analyser vos documents. Et puis, c'est vrai que c'est fait assez honnêtement. Il y a des sites qui sont des sites qui sont des petits sites qui peuvent être mineurs, mais s'ils ont une information importante, ils vont vite se trouver bien placés quand on cherche cette information-là. Maintenant, si on veut être sûr d'être tout de suite référencé, bah, si on paye, on est référencé plus vite. C'est pas secret. Hein. Il dit simplement, au lieu d'attendre 3 mois qu'on ait eu le temps d'analyser, on vous référence dans les 15 jours, ça coûte tant.